vous avez reconnu la musique du Grand Bleu, vous vous demandez pourquoi. Ben, pensez à ce rorqual, cette baleine à bosse qu'on avait observée à Montréal fin mai et qui aura eu finalement une fin beaucoup plus abrupte et qu'on l'aurait souhaité. Il y avait plein de gens, peut-être étiez-vous parmi ces gens qui sont allés l'observer. Ça a été un balai magnifique qu'elle nous a permis d'observer au cours des dernières semaines. J'aime tellement ces animaux, sincèrement, que j'avais envie de la saluer ce matin une dernière fois. Elle dérive, j'espère. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé, je l'espère. Mais en attendant, un hommage à ce mammifère marin qui était exceptionnel, qui nous a rendu visite. C'est comme un moment zen, finalement, que j'ai emprunté à mon collègue Paul Arcand. On va embrayer sur notre prochain sujet et vous allez voir, bien sûr, que c'est pas la première fois qu'on en parle. En fait, on parle de plus en plus au cours des dernières années d'équiper les policiers de caméras qui filmeraient leurs interventions auprès des citoyens. Il y a plusieurs villes américaines, européennes qui les ont déjà adoptées, ces caméras. On peut facilement, d'ailleurs, voir toutes sortes de vidéos là, sur le web, sur YouTube, où on montre des interventions policières filmées. Là, la grande question, puis je vais vous poser cette question-là pour la prochaine demi-heure, en attendant donc le point de presse de François Legault, parce que vous savez que nous allons le retransmettre exceptionnellement aujourd'hui à partir de 11h30 environ. Je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes en faveur de ces caméras corporelles pour les policiers pour éviter, bien sûr, des interventions qui mènent à du profilage racial, à des utilisations de taser, à des coups et blessures jusqu'à ce que mort s'en suive. Évidemment, c'est aujourd'hui les funérailles de George Floyd aux États-Unis et tout ça, toute cette discussion-là prend encore plus de sens dans le contexte actuel. On parle de racisme systémique au Québec. François Legault parle, lui, d'une évolution tranquille. Drôle d'expression. Si ça veut dire qu'il faut que ça change, on est d'accord. Est-ce que ça passe par l'obtention de ces caméras portées par les policiers? Moi, sincèrement, si j'étais policière au SPVM ou dans un autre corps de police au Québec, je pense que je serais en faveur de porter la caméra juste pour montrer que je suis pas un danger, que je suis pas une agresseur, juste pour rassurer la population. Alors, dites-moi comment vous voyez ça. Si vous êtes policier, policière, appelez-nous pour nous dire justement si vous êtes ouvert aussi à ça. Il y a des enjeux, bien sûr, d'éthique professionnelle, de déontologie. Une chose est sûre, c'est que il y a beaucoup à dire là-dessus. Puis même pour les citoyens, je pense que c'est important de savoir si on est d'accord ou pas avec ça. Il est ex-inspecteur au crime organisé au SPVM. On y a parlé hier, mais on trouvait que c'était pertinent de le revoir aujourd'hui. Guy Ryan est avec nous. Bonjour, Guy.
Bonjour Isabelle.
Will Prosper également avec nous, documentariste, militant des droits humains, à qui on a parlé au lendemain de la première manif, justement. Will, merci d'être avec nous.
Ben oui, merci à vous de m'inviter.
Sur la question des caméras, je vais commencer avec notre ex-policier, Graham. Comment vous voyez ça, vous, le port de caméras corporelles? En Europe, on les appelle les caméras piétons, par les policiers, justement.
Moi, je pense que c'est un outil qui serait nécessaire parce que, je vais vous dire, c'est qu'on pourrait avoir l'événement au complet, la totalité de l'événement serait enregistré. Et on aurait également l'échange de paroles entre le policier et le citoyen ou la personne concernée. Ce qui va éviter probablement des dérapages, du profilage et ce qui s'ensuit. C'est sûr que les policiers, c'est un coût exorbitant. On a vu l'étude, c'est des coûts exorbitants et c'est surtout des coûts à gérer exorbitants. Parce que je regardais, l'acquisition, c'est 17 millions de dollars, mais le gérer annuellement, c'est 24 millions de dollars. C'est excessivement cher. C'est une augmentation de 4-5% du budget annuel du service de police de la Ville de Montréal.
Si ces coûts-là sont vrais, parce que je lisais un article, oui. Guy Ryan, ce matin, où on disait, en fait, c'est l'opposition qui affirme que la Ville de Montréal a vraiment exagéré les coûts estimés là, de ces caméras. On doit bien savoir combien ça coûte.
Je veux pas y aller face au coût puis face au budget.
Exact.
Je veux y aller sur l'efficacité. Et je crois que si le policier fait un travail professionnel, et je mets pas tous les policiers dans le même panier, il y en a qui vont procéder à des arrestations, qu'il n'y a jamais rien qui se passe, puis tout est fait en bonne et due forme.
T'en aurais porté une, toi, sur le terrain, t'en aurais porté une?
J'avais pas de problème à porter une caméra.
Mais aujourd'hui, t'aurais pas eu de problème. OK.
J'aurais pas eu de problème, parce qu'en plus, il faut que ça soit déclenché par le policier. Si jamais il arrive que le policier ne déclenche pas sa caméra, ça ne sera pas filmé. Là, on va reprocher comme quoi il a évité de la déclencher, dépendant du temps de réaction également pour l'événement qui va suivre. Mais vous savez, toutes les grandes manifestations sont filmées maintenant aujourd'hui, que ce soit par les citoyens ou par le service de police. Tout est filmé, que tout est facile à voir. C'est lors d'événements bien particuliers, que ce soit une approche individuelle d'un policier avec une personne en crise ou concernant un règlement municipal ou une accusation criminelle en vertu du code criminel ou n'importe quelle sorte d'infraction au code de sécurité routière, on pourrait au moins avoir la transparence et l'intégrité de la conversation et l'intégrité de l'événement au complet qui sera filmé. C'est une protection également pour les policiers, malgré le fait que il y en a plusieurs qui préfèrent ne pas être épiés.
Ouais. On va voir s'il y a des policiers et des policières qui nous écoutent, là. Appelez-moi si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Et dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. Will Prosper, t'en penses quoi, toi, de la caméra portée par le policier?
Il y avait eu un projet pilote qui avait été fait dans la ville de Montréal il y a à peine un an et demi de ça, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Les résultats n'étaient pas très concluants parce que faut comprendre que non seulement c'est très, très cher, mais aussi il faut que le policier le déclenche cette caméra-là. Mais il y a aussi d'autres enjeux aussi parce que c'est présenté comme étant une solution pour lutter contre le profilage racial en tant que tel. Et ça, c'est pas quelque chose qui est démontré que ça puisse être efficace. Et même, je vous dirais qu'il y a une étude qui est sortie en 2015 qui démontrait que dans les villes au Canada, la première raison pourquoi il y a une plus grande présence policière, mais c'est principalement pas à cause du taux de criminalité, mais bien à cause du taux de personnes qu'on racise et de personnes qui sont issues des communautés autochtones. Donc, si on se ramasse à avoir des caméras sur ces personnes-là, bien, à ce moment-là, ils vont être beaucoup plus documentés que le reste de la population aussi, parce que ça va devenir des outils à fin d'enquête. Donc, ça risque d'augmenter aussi un niveau de criminalisation. À titre d'exemple, si le policier arrive près de certaines personnes, puis la caméra est déclenchée, on les filme, on retourne, on regarde ces données-là, et on réalise que peut-être qu'il y avait un mandat contre une personne à ce moment-là. Le policier va revenir et faire l'arrestation de cette personne-là pour un bris de probation. Les gens vont dire, ben oui, c'est un bris de probation, il n'avait pas dû être avec la personne ou quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que les chances que ça arrive à une personne qu'on racise sont beaucoup plus grandes. Donc moi, la question que j'ai beaucoup avec ces instruments-là, c'est qui compile, puis qui garde et qui a accès aux données aussi. Parce que dans le passé à Montréal, si quelqu'un se disait qu'il était victime d'un policier, ben la personne ne pouvait pas avoir accès aux données de ces caméras-là aussi. Donc il y a l'accès aux données qui est aussi une autre grande question qu'on doit se poser en lien avec les caméras, les body cams.
Oui, tout à fait. C'est un bon point. Guy, là-dessus, Guy Ryan?
Moi, je dirais à M. Prosper qu'évidemment, que si une personne qui est victime soit de profilage racial ou d'une interpellation exagérée, bien, la personne qui porte plainte au service de police, ils doivent faire enquête. Ils vont utiliser l'outil, si jamais l'outil est implanté, pour réellement voir ce qui s'est passé. Et si jamais ça a été, je vous dirais, coupé par le policier qui n'a pas activé la caméra volontairement, il doit répondre également de ça. Mais je pense pas que ça va être empêché de voir par les citoyens ce qui s'est réellement passé. C'est ça la transparence. Et là, la direction prêche pour plus de transparence des événements, mais c'est une belle occasion d'être transparent. Puis encore plus, et là je reviens sur le fait que M. Prosper a mentionné, ça va raciser des... Non, pas du tout, parce que si on regarde dans certains secteurs, je vais prendre votre ville, M. Prosper, que vous avez habité d'ailleurs, que j'habite encore à Montréal-Nord, il y a certains secteurs où ça serait probablement utile d'avoir des caméras, parce qu'il y en a plusieurs qui se plaignent, qui sont interpellés trop régulièrement, et qui sont des fois, parfois criminels ou non criminels, ça aurait sûrement un impact très positif de savoir c'est quoi exactement que la personne a fait, ce qui a fait, que ce soit un arabe, une ethnie ou n'importe quelle race, même un blanc, et les paroles qui ont été échangées. Parce qu'on le voit dans les manifestations que souvent, il y a de la provocation de fait.
Ouais.
Et c'est fait complètement gratuitement juste sur le fait de penser que la police ne devrait pas réagir.
Donc là, la caméra pourrait être un enjeu même supplémentaire qui ferait en sorte qu'on voudrait peut-être provoquer le policier.
Je reviens à l'étude qui a été faite il y a un an et demi, là, ce que M. Prosper mentionnait, que j'ai lu également, qui contenait 250 pages. Il disait que même dans le cas d'interception au code de sécurité routière, les gens étaient plus courtois et plus polis. Les policiers étaient plus courtois et plus polis. C'est ce qu'on recherche depuis des années. que les policiers envoient le vouvoiement pour essayer d'avoir une approche professionnelle. Encore là, c'est bénéfique. Si c'est ça qu'on doit avoir comme policier, mais je vous le dis, tous les policiers ne sont pas dans le même panier. Et quand on agit en professionnel, on a besoin d'avoir une caméra après soi pour justifier son travail.
Voilà, OK.
Il y en a des cas extrêmes. Il y a des pommes qui sont des fois un peu sur le bord d'être pourries, mais ça, c'est important. C'est important de les cibler.
Will, là-dessus, en terminant?
Oui, ben moi, je pense toujours que c'est une question de qui va le contrôler, les images, les données, ainsi de suite, parce que c'était pas accessible, comme on le mentionne dans le rapport. Donc, ça, c'est toujours une problématique. Puis, ça a été prouvé aussi à certains endroits aux États-Unis, où est-ce qu'il y a des quartiers qu'on racise, ben les gens sont beaucoup plus... C'est plus utilisé comme des outils d'enquête contre les citoyens. Et lorsque les gens, les policiers se font filmer, on le voit aujourd'hui, il y a un paquet de jeunes, il y a un paquet de gens qui filment les policiers. Et oui, je vais être d'accord avec M. Ryan que des fois, on n'a pas l'ensemble de l'intervention, mais parfois, on a juste la partie qui démontre qu'il y a du profilage racial. Il y a deux cas qui sont sortis dernièrement à Laval et à Montréal, qu'on voit sur des vidéos où est-ce que des jeunes ont commencé à filmer, puis on voit que l'interpellation est complètement différente aussi. Moi, je suis beaucoup plus... je me questionne beaucoup plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place pour s'assurer que ce processus-là de mise en place des caméras, surtout avec le budget que ça va engranger, parce que c'est pas vrai ce que l'opposition dit, ça sera pas des coûts aussi astronomiques qu'ils sont, parce que la gérance de ces caméras vont littéralement faire exploser les coûts. On l'a déjà vu, hein. Ici au Québec, on a le programme Phoenix, là, juste pour vous donner un exemple de gonflement de prix. Tout ce qui est en informatique, la plupart du temps, les coûts augmentent. Il y a une question aussi de s'assurer de protéger les images qui sont conservées, combien de temps on va les conserver, ainsi de suite.
Ouais.
Donc, c'est pas quelque chose qui va être à faible coût.
D'accord. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, ça nous éclaire bien sur vos opinions. Will Prosper, documentariste, Guy Ryan, ex-SPVM. On va s'arrêter ici. Tout de suite après la pause, je vais prendre vos opinions là-dessus. Je veux vraiment vous entendre. On aura aussi un prof là, qui a étudié la question. Est-ce que la caméra change vraiment le comportement des personnes filmées? À tout de suite. Alors, est-ce que vous êtes en faveur des caméras corporelles pour les policiers? Nour, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Isabelle. Ça va, vous allez bien?
Oui, ça va et vous? Votre opinion là-dessus, Anour?
Oui, Madame, en tant qu'ancien policier à un autre pays et en tant que chauffeur de taxi à Laval, je suis fier. Je trouve que la résolution de problème, c'est pas dans l'installation du caméra. Parce que la caméra, ça va engendrer juste des coûts et ça sera trop cher et ça ne donnera rien. Mais le problème s'articule dans la recherche d'une police citoyenne. C'est-à-dire une police qui est trop proche des citoyens. C'est ça qui va résoudre le problème. D'ailleurs, d'après moi, juste une idée. Je vais donc vous donner juste une idée simple. La formation des policiers au cégep, ça prend 3 ans.
Ouais.
Et la formation à l'école de Nicolet, ça prend 3 mois. Comme si vous prenez un universitaire, vous lui dites, OK, vous allez faire un bac en droit. Après ça, 3 mois, tu fais dans un bureau d'avocat et tu sors pour un avocat pour résoudre des problèmes, pour résoudre des grands dossiers. Ça donne à rien. Le problème, c'est dans la formation et dans la psychologie des policiers. C'est comme si moi j'installe une caméra en tant que policier, c'est que je suis toujours condamné que je vais faire quelque chose de mal aux citoyens. Mais non, la police est faite pour une prévention. C'est pas pour donner quelque chose de mal pour le citoyen.
Il faut
réfléchir à cette question-là.
Ouais.
Le malheur et le drame, c'est dans la formation. Il faut apprendre qu'ils apprennent à comment gérer les situations. C'est pas comme ça. La police est faite pour notre bien. Elle est faite pour les biens des personnes, pour sauvegarder les personnes, sauvegarder les biens, sauvegarder les institutions.
Mmh.
Alors la police, c'est une entité et une institution sacrée.
Ouais,
elle est faite pour nous. C'est pas faite contre nous. Il faut régler ça dès les racines. C'est pas comme ça qu'on règle. La caméra, ça ne donnera rien.
D'accord. Merci. Non, c'est vraiment une belle approche police citoyenne intéressante. Je vais aller... Mais il y a peut-être Pierre, rapidement, avant qu'on parle à notre invité. Bonjour, Pierre. Je pense que vous, votre opinion là-dessus, c'est que c'est une bonne idée?
Ah oui, c'est une bonne idée. Écoutez, là... On sait que c'est des êtres humains là qui sont en arrière là du batch. Il y en a du qui rentre dans la police puis qui viennent pour salir le batch. Ils ne sont pas là pour faire leur job. Donc il faut avoir des caméras, mais les caméras ne seront pas suffisantes. Les individus là qui font des excès, là, des brutalités ou bien des assassinats, tout ça devraient avoir des peines qui vont décourager ceux qui voudraient utiliser le batch pour faire du mal.
D'accord.
C'est ça que ça va prendre, des peines.
Merci. Merci beaucoup, Pierre. Je vais m'adresser tout de suite à Rémi Boivin. Il est professeur agrégé à l'École de criminologie à l'Université de Montréal. Il est directeur du Centre international de criminologie comparée. Bonjour, M. Boivin.
Bonjour, Isabelle.
Je voulais vous parler ce matin parce que j'ai vu que vous aviez donné une conférence il y a à peu près 4 ans, parce que je le disais à mes auditeurs, hein, ça fait longtemps qu'on parle de ces foutues caméras corporelles, puis on sait pas trop quoi faire avec, si on les met, on les met pas. Vous avez justement étudié la question, et celle que je vous posais, ben justement, c'était le titre de la conférence que vous aviez donnée il y a 4 ans, « La caméra change-t-elle le comportement des personnes filmées? »
Oui. Ben, la réponse simple, c'est « des fois ». Parce que là, on parle de l'effet dissuasif. Là, est-ce que le simple fait de mettre une caméra sur un policier va changer le comportement des personnes filmées, autant le citoyen ou les citoyens que les policiers qui sont filmés? Aux États-Unis, ça a été, entre guillemets, là, l'argument de vente pendant plusieurs années, parce qu'il y a eu des études au début qui montraient des gros effets sur le nombre de plaintes, l'emploi de la force, différentes mesures comme ça. Donc, l'effet était clair au début. Après ça, ben, il y a eu tout un mouvement de projets pilotes, là, entre autres au Canada, mais un peu partout dans le monde, qui apportaient des réponses plus mitigées, disons. Donc, qui n'avaient pas un gros effet. Puis, une des raisons, c'est parce que ces événements-là, là, au niveau statistique, c'est très, très rare. Donc, un emploi de la force qui est inapproprié, ça arrive pas souvent. On entend parler longtemps, mais ça arrive pas souvent. Ce qui fait que, par exemple, passer de 1 à 0, puis d'attribuer ça au fait d'avoir équipé les policiers de caméras corporelles, c'est vraiment pas une conclusion évidente.
Oui, effectivement. Puis je comprends. Est-ce que vous diriez, vous aussi, comme Nour tout à l'heure, qu'il faut une police beaucoup plus près des citoyens, puis qu'il faut mieux former les policiers? Questions délicates là, d'intervention auprès des gens racisés, entre autres, pour éviter le profilage, pour qu'il n'y en ait pas de profilage?
Ben, je vous dirais, en fait, c'était une très bonne intervention de sa part, parce qu'il disait, puis Pierre aussi a mentionné la même chose, c'est que les caméras n'étaient pas suffisantes, c'est vrai. Il faut combiner ça avec soit des réformes des lois ou avec une formation un peu différente. Là où je suis plus sceptique, c'est qu'il y a un modèle de police communautaire qui existe depuis plus de 20 ans, un peu partout en Amérique du Nord, un peu partout dans le monde, qui a été adopté par la Ville de Montréal à la fin des années 90. Donc, en théorie, le modèle de police citoyenne est déjà en place. Donc, je suis pas sûr que ça représente un changement autant, par exemple, que d'équiper les policiers d'une caméra. Puis aussi, Nour a parlé de la formation au cégep. La formation au cégep des futurs policiers en technique policière inclut beaucoup de mises en situation, inclut déjà ce genre de choses-là. Donc oui, la formation n'est pas faite à l'école de police, mais est faite au cégep, dans les collèges là, qui offrent technique policière.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Rémi Boivin, prof à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. On va s'arrêter ici. Le temps nous presse un peu parce que dans quelques minutes commence la conférence de presse du premier ministre François Legault. On va en la pause. On vous donnera aussi quelques infos sur celle de Justin Trudeau qui se déroule en ce moment.